Émilie Pascal, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Sam de m'avoir invitée. Donc je me présente très rapidement. Donc je suis française et je travaille pour l'AFC, qui est l'Association française des professionnels de la cueillette sauvage, donc qui travaille sur le territoire de la métropole française. Je te précise ce qu'on fait ou tu me le demandes après?
Vas-y.
D'accord, donc l'association s'est créée en 2011 sur une préoccupation commune à tous les cueilleurs professionnels, qui est la question de la ressource en plantes sauvages en France, qui est sous pression pour de multiples raisons, notamment la dégradation généralisée de l'environnement, l'urbanisation. Et parallèlement à ça, on voit une augmentation de la demande des marchés, un engouement du public et des consommateurs pour les plantes. Donc tout ça arrive à une problématique qui est comment gérer intelligemment cette ressource pour que tout le monde puisse continuer à en vivre sans mettre en péril les écosystèmes.
Puis, en regardant le site internet, j'ai bien compris que le profil de cueillette professionnelle est surtout, ou du moins celui représenté par l'association, est surtout les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Donc, si je comprends bien, plus autour de la cueillette de l'herboristerie traditionnelle, là, ce que au Moyen Âge on appelait les simples. Je ne sais pas si vous appelez ça encore les simples pour les
Oui,
plantes médicinales.
le vocabulaire, ce mot existe et est encore connu en France. D'ailleurs, si tu regardes, il y a un syndicat en France qui s'appelle le syndicat des simples,
OK.
qui est un syndicat qui a été créé dans les années 70 de mémoire, qui regroupe énormément de cueilleurs professionnels, mais qui ont un profil très spécifique. Ce sont plutôt des cueilleurs qui font des petits volumes et qui font de la vente directe. Voilà.
OK.
Et certains de ces cueilleurs se retrouvent à l'AFC. Notamment le président de l'AFC est un cueilleur de ce syndicat-là. Et on travaille effectivement, on a exclu de notre périmètre les algues. Il y a un autre syndicat en Bretagne qui travaille sur les algues de rive, qui fait un travail aussi très intéressant. Tu peux aussi aller voir ce qu'ils font, on est en lien avec eux. Et on a exclu les champignons, parce que bon, c'est aussi un souci de circonscrire un peu le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attaquera pas aux champignons, mais d'abord on commence par les plantes. Et effectivement, tout type de plantes, herboristerie, mais aussi tout ce qui va être usage alimentaire. Et puis, ça peut être aussi de l'usage un peu décoratif, tout autre usage. Voilà. Une grosse partie des cueilleurs travaillent sur des plantes qui partent ensuite dans le. En herboristerie ou en agroalimentaire.
Peut-être pour nous mettre en contexte, on peut prendre une filière ou un type de plante qui a des enjeux de pérennité de la ressource, qui est en danger et à laquelle vous travaillez à l'association. Si tu peux nous présenter cette plante, son écologie, les types de cueilleurs et les filières qui l'utilisent, puis comment vous essayez de normer sa cueillette.
D'accord. Alors, je serais tentée, on a beaucoup travaillé sur l'arnica. En fait, en France, on cueille 728 plantes. C'est à peu près 15% de la flore métropolitaine française. Et on a hiérarchisé notre travail là-dedans sur les plantes, effectivement, les plus sous pression et les plus cueillies. Et on a notamment deux plantes qui sont très tendues en ce moment, sur lesquelles on a déjà travaillé, qui sont l'arnica et la gentiane. Je vous parlerai de l'arnica, qui est une plante assez connue. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas en Europe, elle est plutôt connue. C'est la plante contre les coups, les bleus. Il y a énormément de pommades. Elle est très utilisée par des laboratoires comme Boiron, Velleda, enfin, j'imagine, qui vendent aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada, au Québec, enfin bon,
Absolument.
outre-Atlantique. Donc l'arnica, c'est une plante de montagne qui aime les sols acides, donc une plante de prairie acidophile, qui a un milieu qui a été très très impacté par les pratiques agricoles. Donc ce qu'on appelle le chaulage, c'est-à-dire que les agriculteurs basifient les sols pour que les prairies produisent de l'herbe plus grasse et donc pour avoir du bétail un peu plus gras. Et tout ça a fait beaucoup de mal à l'arnica puisque bah, à chaque fois qu'on change le pH des sols, l'arnica disparaît. Et il y a donc il y a eu plusieurs, notamment au Markstein dans les Vosges, qui est le principal site de kayak en France, où il y a un là, c'est carrément tous les acteurs du territoire qui se sont réunis pour créer une convention sur le site pour que les agriculteurs arrêtent de choler. Et donc là, il y a tout un système qui est mis en place pour que les cueilleurs viennent avec des cartes de cueillette, des dates d'ouverture. On a même là beaucoup poussé à l'AFC avec des cueilleurs de l'AFC pour qu'il y ait des pour que ce collectif commence à réfléchir à des quotas, à des taux, enfin à avoir des taux maximum de prélèvement qui soient plus faibles que ce qui se fait actuellement. Parce qu'effectivement, nous, en travaillant sur cette plante, en croisant les observations, l'expérience des cueilleurs de terrain avec les quelques données scientifiques qu'on a pu trouver, il n'y a pas énormément de données scientifiques sur l'impact des cueillettes, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment que la ressource soit pérenne, il ne fallait pas cueillir plus de 50% de ce qui était fleuri. Et aujourd'hui, quand on va sur ce site, c'est plutôt 90% de ce qui est en fleurs qui est cueilli, si ce n'est plus. Parce qu'il y a vraiment une très, très grosse demande des industriels et des industriels qui poussent pour qu'on cueille un maximum. Et en même temps, tout ça se fait au détriment aussi des petits cueilleurs locaux. Donc, ça veut dire qu'il y a des industriels qui viennent soit avec leurs cueilleurs, soit des cueilleurs qui payent, qui font des très gros volumes, qui ensuite partent pour être transformés dans des laboratoires. Et puis des petits cueilleurs locaux qui viennent, qui cueillent beaucoup moins et qui, eux, font de la transfo et de la vente directe. Et du coup, il y a 2 ans, je crois, ça a été une année où il y avait… Non, il y a l'année dernière, il y avait très, très peu d'arnica. C'était la deuxième année où il y avait très peu d'arnica. Et là, il a été décidé, sur demande des cueilleurs, que la cueillette au Markstein soit interdite, qu'il n'y ait pas de cueillette et que seuls les petits cueilleurs locaux aient droit de venir prélever de petites quantités. Voilà. Cette plante est présente sur d'autres massifs en France. On la retrouve dans les Alpes, dans le Massif central, dans les Pyrénées, où il y a aussi ces problématiques de surcueillette, en fait. Et puis, tout ça vient des tensions, forcément, entre des cueilleurs locaux, des cueilleurs qui fréquentent depuis longtemps des sites, mais qui viennent d'autres territoires, et puis des équipes parachutées qui viennent et qui pillent littéralement les ressources. Qui font des razzias sans demander l'autorisation aux propriétaires, ou des fois en demandant, mais le problème aussi, c'est que les propriétaires n'ont pas toujours conscience de la valeur de ce qu'ils ont et de l'importance de ne pas faire n'importe quoi dans la façon de cueillir, si on veut que cette ressource se renouvelle longtemps.
Mmh. Par rapport à cette réglementation qui interdit la cueillette, est-ce qu'on s'attend à un moratoire avec un temps défini ou bien c'est une interdiction à jamais? Puis, comment elle est mise en place? Comment on arrête les gens qui vont cueillir? Est-ce qu'il y a des types de gardes forestiers? Comment ça marche?
Alors, sur le Markstein, c'est très particulier. Hein. Réglementairement, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je crois que c'était plutôt une décision collective de ne pas cueillir entre tous les acteurs présents, y compris les industriels. Mmh. Voilà. Après, en France, la cueillette, il y a plusieurs réglementations. Il y a des plantes qui sont interdites à la cueillette sur tout le territoire français. Il y a des plantes qui peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux. Donc, chaque territoire peut décider de réglementer ou d'interdire la cueillette de certaines plantes. Donc, il y a une liste qui a été arrêtée et qui aujourd'hui est re-questionnée. On espère qu'elle va évoluer. Il y a on trouve qu'il y a des incohérences dans cette liste. Et après, même une fois que cette liste sera revue, ça serait intéressant de sensibiliser les préfectures, les DREAL. Je ne sais pas si ça te parle, c'est les services déconcentrés de l'État dans nos différents territoires qui représentent le ministère de l'Environnement.
Ok, comme des bureaux régionaux.
Voilà. Et qui, sur cette question de la cueillette, qui est assez méconnue en fait en France. On voit que les acteurs de l'environnement, comme les acteurs de l'agriculture, C'est un secteur économique qui est très, très méconnu des gestionnaires du territoire, voilà, de tous les institutionnels. Et nous, à l'AFC, on s'est vraiment constitué et on travaille sur la réalisation d'un guide de bonne pratique de cueillette et de gestion de la ressource naturelle en plantes sauvages. Parce qu'on souhaite vraiment éviter d'avoir une réglementation très restrictive, parachutée en fait par le gouvernement, parce qu'on a peur qu'elle soit un peu décalée par rapport à la pratique de la cueillette, par rapport aussi aux aléas d'une année sur l'autre. Les calendriers de cueillette ne sont pas les mêmes, les quantités qu'on peut cueillir ne sont pas les mêmes. Enfin, ce n'est pas toujours facile de faire rentrer la nature dans des cases. Et ce n'est vraiment pas la volonté de l'AFC. Sauf sur certaines plantes où là, on voudrait qu'il y ait des possibilités en tout cas par ces arrêtés préfectoraux, de réglementer. Et on souhaiterait qu'il y ait des plans de gestion qui soient mis, donc sur certains sites, sur des plantes vraiment sous tension, sur des sites qui sont très cueillis. Là, on pense que ça serait intéressant d'avoir des suivis fins sur les populations par rapport aux prélèvements, bah déjà pour avoir un peu plus de connaissances sur comment les populations de plantes réagissent à la cueillette, et puis pour adapter aussi les mesures de gestion par rapport à l'évolution de la population. Voilà. Les cueilleurs notent aussi que au-delà de à la fin, qu'il y a aussi le changement climatique là, qui est en train de changer la donne sur certaines plantes, pas toutes, voilà, mais il y a des plantes, les cueilleurs commencent vraiment à avoir des impacts. Voilà, des plantes qui peinent plus à se renouveler, qui perdent du terrain, qui souffrent de la sécheresse notamment. Donc on sent qu'il va vraiment falloir faire attention à la ressource.
Ouais, je vois que l'association s'est mise en forme par des gens du milieu, des gens locaux, qui voyaient toutes ces dynamiques-là. Là. Quand tu parlais, j'avais l'impression de plusieurs tsunamis qui arrivaient en même temps. Tu parles de la pression humaine, l'urbanisation, tu parles de la pression de la cueillette, tu parles de la dégradation des écosystèmes. Dû à plusieurs dynamiques, dont climatiques, et des gens qui se mobilisent pour donner de l'information, réglementer. Comment tu dirais que quand les gens se sont assis pour créer l'association, c'était quoi leur but justement? Tu dis la pérennité de la ressource est centrale, mais comment vous vous imaginiez pouvoir avoir un impact là-dessus?
Alors moi, je n'étais pas là. Ils ont créé l'association en 2011, moi je les ai rejoints en 2017, donc j'ai eu l'histoire. Mais c'est vraiment déjà le tour de force d'avoir réussi à réunir tous les cueilleurs, enfin tous les cueilleurs. On ne réunit pas encore tous les cueilleurs de France. Et souvent dans l'association, on parle du mauvais cueilleur, qui est un peu le cueilleur qui justement travaille pour ses équipes, qui font un peu des razzias ou qui travaillent à bas coût avec des travailleurs des fois non déclarés, parfois immigrés. Enfin, là, on touche aussi à des problématiques sociales. Donc, voilà, déjà l'enjeu entre les petits cueilleurs du syndicat simple, qui ont un rapport à la plante, qui font des tout petits prélèvements, et qui voyaient un peu d'un mauvais œil des cueilleurs un peu plus importants, qui travaillent pour les filières industrielles, pour des grossistes. Bah, déjà, ces gens-là arrivent à se parler, se rendre compte qu'ils avaient des intérêts communs, et qu'ils avaient une sensibilité commune à la plante. Je pense que ça a été un gros tour de force. Encore aujourd'hui, quand on travaille ensemble pour élaborer justement ces bonnes pratiques de cueillette plante par plante, on voit des fois des tensions entre bah, ceux qui cueillent beaucoup, gros, mais qui ont une bonne connaissance et un recul, et qui savent le faire dans de bonnes conditions, et des cueilleurs qui cueillent peut-être de plus petits volumes sur des territoires plus restreints, et qui des fois peuvent être choqués. Mais même moi au début, hein, quand je suis allée passer des journées avec des cueilleurs qui cueillent à la tonne, on se dit, ouf, ça... Et en fait, c'est tout à fait possible de cueillir de grandes quantités dans le respect de la ressource si on le fait bien, et qu'on observe les impacts, et aussi qu'on est sensible à ce qui se passe autour. Parce qu'un des risques qu'on peut pointer, c'est un cueilleur qui cueille bien, c'est bien. deux cueilleurs qui cueillent bien sur un même site, s'ils ne se concertent pas, ça peut être la catastrophe, en fait. Il y a aussi ce souci dans l'AFC de que les cueilleurs se parlent, qu'il y a un lieu vraiment pour se réunir. Donc aujourd'hui, on est au niveau national, on travaille sur ce guide qui est quasiment une bible du cueilleur, qui va sortir à la fin de l'année. On produit aussi des livrets techniques par plante, où à chaque fois on explique les enjeux spécifiques, les gestes, la gestion possible des stations sur ces plantes-là. Donc ça, c'est un. Et après, un des sujets qu'on a en tête, ça serait de décliner en fait en représentation locale, régionale, l'AFC, pour qu'il y ait des vrais lieux de discussion et de concertation entre cueilleurs. Voilà, pour qu'on sache qui fait quoi, comment on cueille, qu'on évite les sites surexploités, enfin des choses comme ça. Et ensuite, ils se sont aussi réunis pour faire reconnaître le métier. C'était le deuxième élément très, très fort et qui a fédéré. C'est dire, voilà, on est un métier de l'ombre, on est peu connu, on n'a pas de statut. Parce que, bon, historiquement, la cueillette, c'était un métier, c'était pas vraiment un métier, c'était un appoint de beaucoup de populations rurales. On cueillait un peu, mais c'était pas une activité principale. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire reconnaître ça comme un métier avec des compétences, un savoir-faire et une réalité économique. Et de pouvoir ensuite représenter ce métier auprès des institutionnels, de la filière, pour sensibiliser à cette question de la ressource. Et pour alerter, parce qu'on pense que, voilà, nous, je dis nous cueilleurs, je ne suis que une des deux coordinatrices de l'association, mais à nous tout seuls, on ne va pas la sauver, la ressource. Ça veut dire qu'on peut faire des choses très bien, mais si derrière, il y a les industriels qui continuent à avoir des demandes importantes, il y aura toujours des gens pour aller cueillir et qui ne cueilleront pas forcément de la bonne façon. Si les institutionnels ne comprennent pas nos problématiques, soit ils ne vont pas réagir à temps, soit ils vont prendre des réglementations qui vont empêcher les cueilleurs de travailler. Et puis après, il faut aussi sensibiliser les consommateurs, leur dire, quand vous achetez des produits naturels, soyez vigilants. Ah oui, il y a déjà plein de labels, il y a déjà plein de trucs, mais nous, on réfléchit aussi à un label sur la cueillette durable, d'avoir vraiment une certification pour dire, le produit que vous achetez, il est cueilli dans le respect de la ressource et des milieux. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te raconter. C'était les deux premiers. Je te les ai dit. Donc, la ressource qui est une préoccupation et un bien commun, en fait, de tous ces cueilleurs, et faire reconnaître le métier pour pouvoir discuter avec les différents interlocuteurs. Et je dirais récemment, il y a aussi peut-être un troisième enjeu, mais je disais, il faut informer les consommateurs, mais il faut aussi informer beaucoup les cueilleurs amateurs. Parce qu'il y a un vrai engouement aussi de la cueillette amateur. Et je trouve ça génial parce que ça montre une envie de se reconnecter à tout ça. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Mais c'est pareil, si tout le monde se met à cueillir, si en plus tout le monde cueille un peu n'importe comment, nous, on est quand même un territoire qui est déjà très anthropisé, où la nature est déjà très habitée. Il n'y a plus vraiment de nature sauvage chez nous. Donc, il faut faire attention. Voilà. Il faut que tout le monde ait cette conscience et fasse attention.
Justement, sur cette question-là de la nature humanisée, comment ça marche sur les régimes de propriété, tu sais, parce que la cueillette sauvage se fait en territoire, ici au Québec, en territoire public, tu sais, la grande forêt boréale ou même les forêts en général sont propriété de l'État. Si on va en forêt privée, c'est plus restreint au sud du Québec et là, il faut l'autorisation, par exemple, des propriétaires. En Scandinavie, que le territoire est majoritairement privé, mais il y a un droit acquis de tous les citoyens de pouvoir faire la cueillette sans demander permission sur toute terre naturalisée. Comment ça marche en France sur la cueillette sauvage? Puis comment on peut faire la concertation sur des territoires où il n'y a pas de régime de propriété clair?
Alors en France, c'est pas du tout comme en Scandinavie, ça ressemble plutôt au système que tu décrivais chez vous. Qu'on soit sur des terrains privés ou publics, il faut demander l'autorisation. Sinon, cueillir est considéré comme du vol. Sur les forêts domaniales, il y a une tolérance pour les petites cueillettes, pour les cueilleurs amateurs. Pour des petites quantités, il y a une tolérance, il n'y a pas besoin d'aller demander l'autorisation. Après, dès qu'on est sur du privé, que ce soit de la petite cueillette ou du professionnel, il faut demander l'autorisation. Voilà. Et en forêt domaniale, les cueilleurs pros doivent demander l'autorisation et souvent payer un droit d'accès pour prélever. Et sur les terrains privés, en règle générale, c'est plutôt très bien accepté. Il n'y a pas de... C'est assez rare qu'il y ait des refus. En général, quand il y a des refus, c'est qu'il y a eu un historique où il y a eu des cueillettes, où les gens sont venus sans demander l'autorisation, et du coup, ça a créé un précédent qui fait que les gens sont un peu méfiants. Mais ça se passe plutôt bien. Et sur des ressources, par contre, très demandées, bah, comme la gentiane, l'arnica ou l'ail des ours, le propriétaire, des fois, demande à être indemnisé. Donc, le cueilleur doit payer un droit d'accès à la ressource. Donc, peut être à double tranchant. Nous, on n'encourage pas ça à la FC. On dit bon, il ne faut pas rentrer dans une logique de surenchère. Ça peut nuire à la profession à terme. Mais en même temps, on trouve que ça donne aussi une valeur à ces ressources. Donc, ça peut aussi changer le regard des propriétaires sur ces plantes. Et sur des terrains publics ou dans le cadre peut-être de projets plus largement concertés, ça peut être un moyen de financer un plan de gestion. C'est-à-dire que, par exemple, au Markstein, que je citais tout à l'heure, tous les cueilleurs payent un droit pour pouvoir cueillir. Et cet argent ensuite revient aux communes et aux agriculteurs qui utilisent les prairies, parce que pour eux, ben voilà, on leur dit il ne faut pas choler, il ne faut pas mettre vos bêtes à pâturer ben, avant la cueillette de l'arnica, sinon il n'y a plus d'arnica. Donc voilà, donc ça permet aussi de rendre des choses possibles, des fois, de rendre cet accès payant. Voilà, mais bon, on n'encourage pas ça non plus.
Puis, tu parlais de la reconnaissance des cueilleurs. Peut-être les deux aspects de la reconnaissance, la reconnaissance culturelle du métier de cueilleur, puis ce qui est intéressant en Europe, c'est que c'est des métiers de longue histoire. Puis là, on rentre dans la reconnaissance presque du patrimoine immatériel, tu sais, de pratiques en voie de disparition, d'un savoir-faire ancestral. Comment c'est par rapport à ça? Puis ensuite, peut-être plus la reconnaissance légale, économique. Est-ce que le métier de cueilleur professionnel, est-ce qu'on a une carte de métier? Est-ce qu'il y a un régime de formation qui permet de faire reconnaître? Peut-être parler de ces deux choses-là, là, séparément ou ensemble.
Alors, je vais commencer par l'herboristerie en France ou la pratique en lien avec les plantes sauvages en France. Je vais t'expliquer comment moi je le perçois et comment, enfin voilà, comment je... C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, je pense, comme dans beaucoup de pays dits modernes ou développés. On a beaucoup perdu ce contact, mais on le note en France et dans beaucoup de pays d'Europe depuis, allez, la fin des années 90, début des années 2000. Il y a vraiment un engouement qui revient avec vraiment une explosion des marchés. Un nombre de livres publiés sur la question assez impressionnant d'année en année, des formations, enfin, le grand public se réintéresse vraiment à ça, aussi bien dans la consommation que dans réapprendre ses savoir-faire, redevenir autonome. Il y a aussi la question de redevenir autonome sur sa santé pour certaines personnes. D'autres personnes, il y a quelque chose de survie douce, de redécouvrir, bah, les plantes sauvages comestibles, d'être plus autonome sur ce volet-là. Donc, on a quelque chose de très intéressant, en tout cas, un mouvement social de fond qui traduit, je pense, une envie de changement un peu de société. Enfin, j'ai envie de croire ça, que ce n'est pas qu'un effet de mode. Mais par contre, l'herboristerie, vraiment la pratique de l'herboristerie en France est très complexe, puisque le métier, le diplôme n'existe plus depuis 41. Et en fait, c'est illégal d'être herboriste en France. Les pharmaciens peuvent l'être dans le cadre d'une pharmacie, mais on a le droit de vendre 148 plantes en France. Il y a 148 plantes qui sont dites libérées, qu'on peut vendre librement, Mais on n'a pas le droit de donner du conseil quand on les vend. Voilà. On peut vendre un sachet de plantes, mais on ne peut pas dire à quoi il sert. Dans les faits, ça, c'est pas... les gens contournent un peu tout ça. Parce que bien sûr que quand on achète un sachet de tisane, on va demander au vendeur à quoi ça sert. Quand on achète un baume aussi, il y a toujours les noms des produits qui disent un peu à quoi ça sert, sans le dire. Enfin, c'est très la situation, en tout cas en France, est très inconfortable pour les professionnels qui font de la vente directe. Et il y a un sénateur qui a lancé une réflexion. Il y a une commission sénatoriale qui travaille là-dessus. Je ne sais pas exactement où ça en est. Mais pour faire évoluer la reconnaissance du métier d'herboriste. Voilà, donc ça, c'est un sujet. C'est compliqué, le lobby pharmaceutique. Et c'est puissant en France. Peut-être pas qu'en France, mais en tout cas, il verrouille beaucoup les choses. Mais je suis quelqu'un d'assez optimiste. Donc j'espère que ça va évoluer. J'ai de bon espoir que ça évolue. Ensuite, sur le statut de cueilleur et le métier de cueilleur, il y a vraiment une pluralité de profils chez les cueilleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais j'imagine. Donc, il y en a qui sont cueilleurs à temps plein, d'autres à temps partiel, d'autres qui font, comme je le disais, petite cueillette, transformation, vente directe, avec beaucoup de produits artisanaux. Je suis encore en train de perdre le fil. Il n'y a pas de formation en tant que telle en France. La plupart des cueilleurs disent que de toute façon, la façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, c'est d'aller avec un père qui vous transmet les gestes et les savoir-faire. On peut se former. Il y a des formations agricoles qui intègrent la question de la cueillette sauvage. Donc, c'est des formations plutôt orientées sur la culture et la production de plantes aromatiques et médicinales, dans lesquelles il y a des modules sur la cueillette sauvage. Et après, il y a tout un florilège de petites formations courtes de découverte de la cueillette avec des niveaux plus ou moins élevés qui peuvent constituer une bonne base pour démarrer, pour se rendre compte si on a envie ou pas de ça. Mmh. Et concernant le statut de cueilleur, alors là, c'est aussi un grand flou artistique. Il n'y a pas un statut de cueilleur clairement défini. La FC s'est posé la question de est-ce qu'on veut un statut unique ou pas? Aujourd'hui, l'état de nos réflexions, c'est de dire qu'on ne veut pas de statut unique, que finalement, la pluralité des projets d'installation, de types d'activités, fait qu'on ne peut pas avoir un statut unique. Enfin, on sent que ça va plutôt fermer les possibles que les ouvrir. Après, ce qui est compliqué pour la cueillette sauvage en tant que telle, c'est que les cueilleurs qui ne font que de la cueillette, normalement, toujours bon, après, on s'arrange avec la loi. Ils ne peuvent pas avoir de statut agricole. Voilà. En France, en tout cas, pour être agriculteur, accéder aux aides agricoles, accéder à la sécurité sociale agricole, à la retraite des agriculteurs, enfin, voilà, avoir le statut agricole, il faut maîtriser tout le cycle de la plante. Donc, il faut planter et récolter. Alors que le cueilleur, lui, ne plante pas, ne fait que récolter. Il y a des départements où il y a de la tolérance, d'autres moins. Enfin, je sais que s'installer en tant que cueilleur peut être un sacré casse-tête en France. Donc, ce qu'on voudrait, c'est accompagner, faciliter, mais sans en arriver jusqu'à un statut fermé définitif. Donc, voilà. Il y a beaucoup de cueilleurs qui dépendent du régime agricole, mais il y a aussi des cueilleurs qui sont artisans. Je pense qu'il y a des cueilleurs qui doivent dépendre aussi de l'animation, qui doivent produire et faire de l'animation formation à côté. Voilà, moi je dirais que c'est quand même peut-être les trois statuts les plus répandus. Mmh. Mais on n'est pas à l'abri d'en voir d'autres.
Mmh. Puis, on va peut-être parler des guides de bonne pratique que vous êtes en train de mettre en place, qui va bientôt sortir. Il y a déjà des fiches techniques qui sont sur le site Internet. Tu peux nous parler un peu de la démarche qui a initié ce projet-là? Puis comment vous êtes allé, déjà, on peut s'attendre à quoi à l'intérieur du document? Et comment vous êtes allé chercher l'information autant chez la communauté de pratique, chez les cueilleurs, que peut-être avec les scientifiques? Si tu peux nous parler de cette démarche-là.
Alors, la façon de travailler sur le guide, ça a vraiment été une co-construction. Entre des scientifiques, donc écologues, on a une ethnobotaniste, des écologues qui travaillent avec nous, parfois des botanistes. Enfin, après, suivant les plantes, on peut aussi avoir le noyau dur du processus qui s'élargit avec des compétences extérieures. Et donc, dans ce noyau dur, il y a donc ce petit groupe de scientifiques et un groupe qu'on a appelé les cueilleurs référents. Donc, ils sont des cueilleurs, aujourd'hui, ils sont au nombre de 8, avec des profils variés. On a eu ce souci d'avoir des petits cueilleurs, des cueilleurs qui font du gros, mais en frais pour des laboratoires, des cueilleurs qui font du gros, mais en coopérative, et des cueilleurs qui font du semi-gros, on va dire, organisé en GAEC, des regroupements de plusieurs agriculteurs. Donc, on essaye d'avoir, dès qu'ils distillent, dès qu'ils distillent pas. On a essayé d'avoir quelque chose de représentatif. Et donc, quand on prend une. Alors, je vais parler des plantes et après, je vous parlerai de la partie générale du guide. On a un document qui est une espèce de Bible, comme je le disais tout à l'heure, qui va sortir à la fin de l'année. Et puis, des livrets techniques par plante. Donc, comme tu disais, il y en a déjà un qui est en accès libre sur le site de l'AFC sur l'aubépine. Pas une plante spécialement menacée, mais qu'on a choisi comme plante test parce qu'elle a. Il y a beaucoup de parties cueillies, beaucoup de façons de faire différentes. Donc, on a essayé quelque chose d'un peu complexe pour voir si notre méthode fonctionnait, en fait. Donc, sur ces livrets techniques, on croise le regard des cueilleurs de terrain, donc de nos cueilleurs référents, la bibliosentifique. Donc, les scientifiques vont faire de la biblio sur l'écologie de la plante, la physiologie de la plante, ses stratégies de reproduction. Sur aussi tout ce qui est mise en culture, est-ce que la plante a été mise en culture, quels sont les résultats de cette mise en culture. On croise tout ça et en plus, on va interviewer des cueilleurs autres. C'est-à-dire qu'on va repérer d'autres cueilleurs qui ont des pratiques différentes, des cueilleurs qui peuvent être extérieurs à l'AFC et on va accueillir avec eux. Donc ça peut être les deux coordinatrices qui vont faire les entretiens, mais ça peut être aussi des cueilleurs référents. Et ensuite, on met en commun tout ça. Et le travail de Maëlle et moi, qui sommes les coordinatrices, c'est vraiment de digérer toute cette matière et d'en produire une synthèse qui ensuite est discutée au sein de ce collectif, donc de cueilleurs référents et de scientifiques, pour définir les bonnes pratiques. Alors, on n'a pas vocation, on est conscient de nos limites, c'est-à-dire qu'il y a peu de données, il y a peu de données scientifiques. Je sais que l'aubépine, on l'a fini et on l'a présenté à une fête des simples. Et certains cueilleurs, en lisant le livret, m'ont dit: Ah, mais moi, je ne fais pas comme ça, moi, je fais autrement. Et la façon dont ils faisaient n'avait pas l'air. Enfin, moi, ça ne m'a pas choquée. Donc, on essaye surtout de donner assez de connaissances aux cueilleurs pour qu'ils puissent être en capacité de définir sa propre stratégie de gestion. On va lui montrer un peu les gestes qui sont les plus courants, les façons les plus courantes de gérer les choses. Mais il y a une grosse partie dans les livrets sur vraiment la physiologie de la plante, sa stratégie de reproduction, son milieu, les autres impacts aussi qui peuvent venir gêner le renouvellement de la ressource. Et on incite vraiment le cueilleur à se questionner et à observer. C'est vraiment Et on a bien conscience que tout ça risque d'évoluer dans le temps parce je pense que les livrets, une fois qu'ils seront lus, partagés, ils vont susciter des réactions. Donc, on va avoir des nouvelles informations qui vont venir enrichir ces connaissances. Parallèlement à ça, sur certaines plantes, on travaille avec des laboratoires qui, eux, ou des gestionnaires d'espaces naturels qui, eux, lancent des suivis de population avec des ils font voilà on dit bon on cueille 100% on cueille 30% qu'il y avait telle technique pendant 3 ans 5 ans puis on regarde ce que ça fait. Donc tout ça nous ça va venir nourrir nos prescriptions. Et puis il y a le changement climatique aussi encore lui qui je pense va changer la donne sur pas mal de choses et risque de rendre les populations plus vulnérables à tout ça. Donc ça c'est la façon de travailler sur les livrets techniques. Et sur le guide, on travaille à peu près de la même façon, sauf qu'on ne va pas interviewer des cueilleurs extérieurs. Là, on travaille vraiment entre nous sur ce qu'on a envie de dire. Donc, dans ce guide, presque envie de me mettre le sommaire sous les yeux pour me rappeler ce qu'il y a dedans. Mais il y a toute une partie j'ai envie de dire presque politique, de prise de position de l'AFC qui dit bah, pourquoi on fait ça? Pourquoi le rôle du cueilleur est important? Parce que c'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui doit avoir une éthique de cueillette, qui doit savoir dire non aux industriels, qui doit savoir les sensibiliser. On parle aussi des filières, de toutes les dérives qu'on peut observer dans les filières, de comment sont structurées les filières. Donc on donne beaucoup d'éléments de contexte, toujours pareil, pour que les gens comprennent et voient comment. Bah, c'est pas si simple en fait de réussir à agir là-dessus et de réguler tout ça. On explique aussi comment on peut se constituer un territoire de cueillette, comment on peut gérer son territoire dans le temps quand on est un cueilleur, quels sont les différents leviers d'action pour gérer un site. Donc, entre limiter son prélèvement, favoriser une ressource, travailler en collaboration avec les autres usagers, suivre et observer. Et le dernier, bah, c'est la mise en culture, qui est vraiment la dernière étape. Nous, on est vraiment à dire, essayons à tout prix de maintenir la ressource in situ, de maintenir la cueillette de plantes sauvages, de réfléchir à comment on peut avoir des plans de gestion, des réflexions collectives qui se mettent en place sur. Parce que là, je le dis, j'imagine, toi tu le sais, mais en tout cas, chez nous en France, l'agriculture et la sylviculture ont un énorme impact sur les milieux dits naturels. Je le disais, on n'a plus beaucoup de milieux naturels chez nous. Et du coup, ces pratiques-là ont un énorme impact sur la ressource en plantes sauvages. Et donc, si on n'arrive pas à travailler avec ces gens-là, y a des chances que bientôt, en France, en tout cas pour les gros volumes, on soit obligé de cultiver. Donc, pour nous, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. On espère ne pas en arriver là, mais sur certaines plantes, la demande est telle qu'il faut en arriver là. Donc, tac, tac, tac. Et après, il y a toute une grosse partie sur qu'on a appelé les étapes de cueillette. Donc là, c'est vraiment « je suis cueilleur, j'ai une nouvelle plante à cueillir ». Quelles sont toutes les questions qu'il faut que je me pose, tous les trucs à faire et à ne pas faire. Et à chaque fois, toutes ces choses-là renvoient à des fiches outils, mais qui permettent toujours pareil d'aller plus loin, de se documenter, de comprendre. En fait, on ne donne pas une solution toute faite. On arrive à la conclusion que tout est contextuel et que du coup, le rôle du cueilleur est vraiment très, très important dans cette préservation de la ressource.
Ouais, je pense que c'est la bonne approche que au lieu de donner des recettes sur de dire on ne prend pas plus que tant de quantité de telle plante dans un rayon de temps de superficie, c'est beaucoup mieux de partir des principes premiers, de comprendre, comme tu le disais, l'écologie, la phénologie de la plante, comment elle évolue à travers une année, de connaître sa répartition relative, son abondance dans un lieu, vraiment d'encourager l'intelligence et la souveraineté de la personne, et ça lui permet de se responsabiliser. Tu sais. Mais souvent, quand les gens débutent, que ce soit dans l'amateur ou dans le commercial, comme dans toute pratique, des fois, c'est bon de donner des recettes. De dire tu te limites à ça, versus complexifier la démarche. Donc, c'est ambigu, mais je pense que pour les cueilleurs professionnels, c'est vraiment la bonne façon de faire que de partir de manière large avec les principes premiers. J'ai bien hâte de voir le document.
En tout cas, le guide est fait avec les cueilleurs. Donc, normalement, il est quand même censé répondre à leurs besoins. Et il y a quand même une valeur que j'ai oublié de mentionner, c'est qui a aussi été quelque chose de très, très fort lors de la fondation de l'AFC, c'est la question de la liberté. C'est une valeur qui est très importante chez les cueilleurs, c'est d'être libre et d'exercer leur propre responsabilité sur la ressource. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de statut, de réglementation, Ils ont vraiment envie de s'affirmer effectivement en disant qu'on a un rôle à jouer et on est capable de jouer. Et cette connaissance, c'est nous qui l'avons. Et on veut faire reconnaître ce savoir-faire et ce rôle qu'on peut avoir. Mmh. Et comme tu le dis, dans ces fameux livrets, il y a aussi des prescriptions de taux max, de rotation, mais qui sont un peu des garde-fous. Voilà, c'est de dire, Faut plutôt être dans ces eaux-là. Faut pas aller au-delà de ça. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi et d'observer. Voilà. Et de regarder année après année comment le site évolue et d'ajuster ces règles Et idéalement, on aimerait pouvoir, une fois qu'on s'est structuré, qu'on aura plus de moyens, que justement que tous les cueilleurs puissent nous faire des retours d'expérience sur nos livrets et qu'on puisse partager tout ça, en discuter et consolider toutes ces connaissances sans les figer. C'est tout le problème de rédiger un guide et peut-être d'aller vers une certification, c'est qu'on normalise des choses qui sont pas toujours normalisables. Enfin, la normalisation, ça a quand même des travers. Ça a du bon, mais ça a des travers. Et puis, normaliser la nature, c'est un peu compliqué. Donc, on est toujours dans cette tension. Certification, c'est un sujet qui revient très régulièrement. On sent que c'est quelque chose vers lequel on va devoir aller. Mais
Mais
voilà.
ça vient avec sa paperasse, les cahiers de
Voilà, c'est
charges,
ça.
des lourdeurs administratives, des suivis, des audits. Puis on va se le dire, tu sais,
Et en général, le cueilleur est assez allergique à ça.
exactement.
Il ne fait pas enfin, il a choisi son métier justement parce qu'il déteste ce genre de choses.
Exactement, c'est toujours un compromis. Ah, puis peut-être pour finir, les fiches techniques, on s'attend à quoi? Il y a combien de plantes représentées? Puis peut-être les parties de chaque fiche, rapidement.
Alors, je te le disais, il y en a 728 en France de plantes potentiellement cultivées, n'importe quoi, collectées en sauvage. Donc, on a fait un travail un peu d'entonnoir. On arrive à peu près à 130 plantes qu'on aimerait traiter en livret. Donc, autant dire que là, à la fin de l'année, on aura fait 10 livrets. Alors, il y a des livrets où il y a plusieurs. Par exemple, on a traité toutes les lavandes ensemble. Les aubépines, ben voilà, il y a deux espèces d'aubépines. Donc, je crois qu'en priorité, on s'est restreint à une cinquantaine de plantes et à une trentaine de livrets. Sauf que je te dis que je ne connais même pas les chiffres, tellement ça paraît fou. Moi, j'ai commencé à travailler pour l'AFC en 2017 sur le guide. On va mettre 4 ans à accoucher du guide et de 10 livrets. Donc, voilà, quand on se dit entre nous qu'il y en a 100 à faire, on se dit qu'on sera à la retraite avant de les avoir faits. Et donc, dans un livret, le livret, tu as toute une partie plutôt botanique, botanique-écologie. Donc là, c'est vraiment de la connaissance pour comprendre la dynamique. Il y a une partie geste. Quels sont les bons gestes? À quel stade cueillir? Pourquoi ce stade? Après, suivant l'usage, le stade peut être différent. Mais en tout cas, on essaye d'expliquer comment choisir un site aussi. Qui soit, il y a toute la question de la pollution, des parasites, mais il y a aussi la question de ne pas accueillir des populations trop petites, de ne pas accueillir des populations trop isolées. Alors, voilà, il y a aussi des critères qui peuvent, dans le choix du site, qui peuvent avoir un impact sur le renouvellement de la ressource. Et après, il y a toute une partie sur la gestion. Donc, on parle de la réglementation, on parle des autres impacts humains sur la ressource, du lien du coup avec l'agriculture, la sylviculture, le pastoralisme, et on pose des prescriptions. Voilà. Et puis des fois, on donne des exemples de pratiques qu'il y a pu avoir ailleurs ou des alertes. Notamment cette année, là, j'ai travaillé sur l'ail des ours et on a parlé de l'ail des bois chez vous, qui est pas la même plante, mais qui a connu une surexploitation et qui aujourd'hui est interdit à la cueillette commerciale. Et c'est exactement le genre de choses qu'on veut éviter. On vous a un peu cité en contre-exemple.
Ouais, je comprends, cette tension-là, tu sais, de travailler en amont avant que la police et les gendarmes se mettent dans le dossier pour interdire à jamais, tu sais. Et aujourd'hui,
Voilà.
au Québec, avec l'association, on est dans l'enjeu de peut-être réouvrir maintenant, tu sais, réouvrir à la reproduction de ces plantes-là, à la régénération, tu sais, que justement les règles et législations faites par des fonctionnaires, on va se le dire, et peut-être pas adaptées à l'écologie, mais c'est un sujet qu'on pourra reparler. Émilie, si les gens veulent se procurer ici au Québec tout ce beau travail de longue haleine, est-ce qu'on va y avoir accès? Comment ça marche?
Alors, la partie générale du guide sera normalement en téléchargement gratuit sur le site. On a été largement financé par le ministère de l'Environnement. Donc, en tout cas, cette partie sera en accès libre. On va l'éditer aussi. Donc, l'édition sera payante, mais normalement, elle n'aura pas un très gros coût. C'est vraiment pour payer le coût de l'édition. Le but, c'est pas de. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est vraiment diffuser cette connaissance. Et alors, les livrets techniques, comme tu as vu, il y en a un qui est en accès libre sur le site. L'idée pour l'instant, c'est plutôt qu'il soit en accès pour les adhérents. C'est aussi une façon pour nous d'inciter les gens à adhérer à l'association. Et ils seront normalement pareil. Une fois qu'on est adhérent, on accède à toutes les versions numériques et on peut acheter les versions papier. Après, pareil, on discute. C'est aussi c'est-à-dire que les cueilleurs ont livré énormément de savoir dans ces livrets. Et des fois, ils se disent, mais est-ce qu'on n'en a pas trop dit? Est-ce qu'on a envie de tout diffuser comme ça? Parce qu'il y a des cueilleurs, des techniques, on donne des techniques pour la ressource, mais aussi des techniques qui permettent de faire beaucoup en préservant la ressource, en préservant le cueilleur, en ayant des bons rendements horaires de cueillette. Enfin, et donc pour l'instant, il y a des cueilleurs qui ne voudraient pas que ça soit diffusé trop largement. Voilà. Mais c'est un débat qu'on a encore au sein de l'AFC. On a beaucoup, beaucoup de mal à caler notre politique de diffusion entre l'envie de très largement diffuser et puis se
Le
dire
départ
est-ce qu'on n'en donne pas trop, voilà, pour certains professionnels. Bon, mais en tout
Parfait.
cas, pour les adhérents de l'AFC, normalement, tout sera accessible en ligne.
Je vais vous envoyer ma cotisation sous peu à l'Association française des professionnels de la cueillette des plantes sauvages avec Émilie Pascal, coordonnatrice. Merci
Voilà.
beaucoup
Ben,
d'avoir
merci à
pris le temps.
toi. C'était un vrai plaisir.
Puis on garde le contact outre-mer.
Eh ben, écoute, avec plaisir. Peut-être qu'un jour, on viendra vous voir ou inversement.
Et vice-versa. Merci, Émilie.
Merci à toi. Au revoir.
Au revoir.